Je ne peins pas des formes, mais des forces invisibles, le devenir des formes. Ce soir, l'heure bleue avec Fabienne Verdier, mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et avec Charles Trenet.
La joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie et du soleil dans les ruelles, y a de la joie partout, y a de la joie tout le jour. Mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie partout, y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur, et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie et du soleil dans les ruelles, y a de la joie partout, y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, y a de la joie partout, y a de la joie.
Ben, y a de la joie, oui, c'est vrai, y a de la joie, Fabienne Verdier, à passer du temps dans votre exposition ici au musée Granet à Aix-en-Provence. Cette exposition qui restitue la démarche et l'itinéraire de quelqu'un qui a su prendre des risques très tôt. On va revenir sur vos différentes vies, mais je voulais savoir à quel âge vous aviez eu un pinceau entre les mains.
Eh bien, j'ai commencé assez tôt, vers l'âge de 6 ans. Mon père, mes parents avaient divorcé et mon père avait amarré une péniche au pied du musée d'art moderne. Et nous faisions du patin à roulettes autour du Pouce de César. Nous allions voir les expositions. C'était extraordinaire au musée de l'Homme, au musée. C'était fantastique. Et là, le week-end, on sortait des pinceaux, une petite chaise, un chevalet, et on peignait le cul des bateaux. Et ça a commencé là, cette passion pour l'art.
Et donc, votre père était peintre?
Il n'était pas peintre, il aimait beaucoup la peinture, il était sorti premier des arts déco et c'était devenu un grand directeur artistique.
Et vous, vous avez été en révolte, mais vous avez quand même appris la peinture, même si ça a été votre vocation dès l'enfance?
Oui, j'étais en révolte toute jeune, c'est vrai, et je trouvais dans le fait de manipuler de la matière et d'avoir à dire, à exprimer une expérience intérieure, je me réfugiais là-dedans, j'étais bien à tripoter de la matière.
Pourquoi avez-vous décidé de faire une école des beaux-arts, puisque vous aviez ce don à l'intérieur de vous et vous le saviez ?
Non, je ne le savais pas, j'ai mis du temps. Et on, je ne pense pas le savoir si jeune. D'abord, c'est mon père qui a été le premier professeur de peinture. Hein. 15-16 ans, j'ai décidé de tout quitter, je l'ai retrouvé. Il avait, après 68, fait cette grande révolution de retour à la nature. Et j'ai été le retrouver pour savoir si je pouvais faire ce choix de donner ma vie à la peinture. Et il s'est bien moqué de moi en disant... Mais quand même, à 15 ans, ça me paraît un peu difficile. Il a décidé de me tester un peu et de m'enfermer dans une pièce et de commencer à essayer de me transmettre ses connaissances telles qu'il les avait apprises, les classiques, la perspective euclidienne et regarder le monde par le point de fuite. Et très rapidement, j'étais un peu une petite chèvre noire, je tapais du pied, j'étais un peu têtue et je lui disais que je ne voyais pas le monde et la réalité de cette manière-là. Et que... Donc très vite, on s'est un petit peu fâché. Et à ce moment-là, il me disait, mais regarde dans ma bibliothèque, qu'est-ce qui t'intéresse ? Et j'ai fouillé parmi tous les livres qui étaient là. Et j'ai sorti un livre de quelques pots de Morandi. Et je lui ai dit, ça m'intéresse. Et il me dit, mais... Pourquoi ça t'intéresse ? Je dis, je ne sais pas, il y a une expérience vibratoire, il y a une expérience intérieure, et au travers ces quelques simples pots, cet homme arrive à dire des choses très profondes, et peut-être que c'est ça qui m'intéresserait. Donc voilà, on a été dans les décharges publiques, on a ramassé quelques pots, et j'ai commencé à m'enfermer et à travailler ces touches, et qu'est-ce qu'on pouvait dire au travers trois pots métalliques trouvés dans une poubelle.
Et ensuite, il y a eu l'École des Beaux-Arts de Toulouse, qui sans doute a été déterminante, mais auparavant, vous avez appris à observer un paysage, le paysage. Et ça, c'est une des thématiques récurrentes de votre œuvre. C'est l'observation ou la méditation ou la contemplation du paysage. Ça a commencé très jeune. Comment on regarde ou comment on contemple ou comment on s'abîme dans un paysage, Fabienne Verdier ?
Eh bien, mon père avait une maison, un domaine dans la Malpère et on voyait toute la chaîne des Pyrénées. Et c'est vrai, vous avez raison, cette ligne de crête lointaine qui a des accroches de lumière qui permettent de refléter différentes facettes de sa minéralité. Ça m'a toujours fasciné par toutes les lumières du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Et cet amour de l'immersion dans un paysage a toujours existé. Je ressentais un bien-être là.
L'École des Beaux-Arts, vous l'avez suivie, mais ça ne vous a pas franchement séduite.
Non, j'étais très malheureuse très rapidement. Parce que l'enseignement était particulier, par exemple. On se retrouvait devant un buste de Beethoven et pour parler de l'âme humaine, et il fallait dessiner quelque chose de vivant et on se retrouvait devant une forme immobile, figée, inerte, morte. Et alors, le professeur de dessin, qui était un monsieur très très sympathique, me dit « Mais Verdier, vous vous emmerdez hein ?» Et je dis « Oui, monsieur, je m'emmerde. » Et là, j'étais virée définitivement des Beaux-Arts. Je suis devenue très rapidement cancre. Mais c'est souvent dans ces moments-là de grande déstabilisation que je me suis retrouvée dans les jardins du Musée d'Histoire Naturelle de Toulouse. Et là, j'ai vu la beauté des oiseaux en vol, des papillons. Voilà, j'ai fait une expérience directe de la réalité et je me suis dit, mais tout de même, l'essence de cette réalité, c'est mouvement spontané. Hein. C'est une fluidité, hein. C'est quelque chose de très fugitif, de très insaisissable. Comment je vais apprendre ça ? C'est ce qu'il faut que j'arrive à capter avec mes pinceaux si je veux apporter quelque chose à la peinture. Et là, je suis retournée voir ce professeur et en lui disant, écoutez, je vais faire des dessins, je vais aller vers cette expression vitaliste des choses. Je sais que j'ai pas été très polie dans les cours, mais si je vous offre un petit café et un pain au chocolat le matin, est-ce que vous pourriez corriger mes études, mes esquisses ? Il m'a dit, mais écoutez, on ne peut pas vous enseigner ce que vous cherchez là, ça ne fait pas partie de nos cultures. Je vous conseille de partir en Asie et peut-être là-bas, dans ces cultures multimillénaires, vous allez apprendre déjà cette possible harmonie entre l'homme et la nature, ce que vous cherchez, et aussi cette maîtrise du pinceau d'une certaine spontanéité. Et voilà, et à ce moment-là, je suis montée à Paris retrouver ma tante Yvonne Verdier, qui était ethnologue. et qui m'a très vite conseillé d'aller rencontrer Jacques Pimpano, qui avait un musée, le musée Kwakon à l'époque, et qui était un grand sinologue. Et je lui ai demandé si je partais en Chine, ce qu'il fallait faire. Et la ville de Toulouse me proposait de faire un premier échange avec la ville de Chongqing, dans le Sichuan. Et il m'a poussé à partir là-bas en disant qu'il n'y avait pas eu d'étrangers encore après la révolution culturelle, et que ce serait vraiment intéressant qu'en tant que peintre ethnologue, j'aille étudier là-bas. Donc j'ai pris mon petit baluchon et je suis partie.
Eh bien, je vous propose d'écouter la voix de Jacques Pimpano.
L'opéra de Pékin se distingue d'abord par les mélodies employées. Maintenant, ces mêmes mélodies, vous les retrouvez dans l'opéra cantonais, vous les retrouvez surtout dans l'opéra de la moyenne vallée du Yangtze, de le Hantu. Donc, non seulement par un certain nombre de mélodies, mais également par le fait que ces mélodies sont chantées en utilisant un parler qui est le Zhongzhouyun, qui est le parler de la plaine centrale, qui n'est pas le dialecte de Pékin, qui est le dialecte de la plaine centrale parce que c'était la langue, pour, disons, commune pour toute la moitié nord de la Chine. Et puis la composition spéciale de l'orchestre, si bien que la même mélodie va sonner très différemment à l'opéra de Pékin parce que le langage utilisé, la langue utilisée est différente et parce que l'orchestre a une composition différente. D'autre part, l'opéra de Pékin distingue par le grand développement, par opposition aux autres genres, des grands ballets qui signifient, si vous voulez, des combats. La spécialité de l'opéra de Pékin, si vous voulez, c'est de donner des grands ballets montrant des combats entre des armées ou des combats entre des brigands, etc., très élaborés.
Alors Jacques Pimpano, ça a été une sorte de maître, d'ailleurs des maîtres, je pense que vous en avez eu, vous avez décidé d'en avoir, Fabienne Verdier. Vous êtes partie dans le Sichuan, vous étiez la seule occidentale. Quelles étaient les conditions de travail et comment avez-vous été accueillie par vos camarades là-bas, vos camarades chinoises?
Alors, c'était un véritable choc parce que j'étais partie. Jacques Pimpano m'a remis entre les mains un livre du musée qui était extraordinaire, qui s'appelle « Les propos sur la peinture du moine citrouille amer ». Il avait eu l'intuition que ce livre m'aiderait à survivre et à me battre avec ce système totalitaire parce que j'étais une toute jeune fille et j'étais totalement inconsciente du pays dans lequel j'allais, là où j'allais mettre les pieds dans le Sichuan. Donc ça a été très très difficile. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que j'ai écrit tout ça dans un livre, un témoignage qui s'appelle « Passagère du silence ». Mais heureusement que j'avais ce livre du moine citrouille amer, parce que les journées étaient très rudes, très difficiles. J'étais enfermée dans une petite cellule du Parti communiste. Je me retrouvais seule face à moi-même. Et j'ai vécu une expérience. Et finalement, c'est très curieux, mais je dois reconnaître que le fait, si jeune, d'avoir été enfermée tant d'années, j'ai pu creuser en moi-même. J'ai fait un travail que je n'aurais certainement pas fait si j'étais restée à Paris avec mes jeunes copains.
Alors dans votre livre « Passagère du silence », à un moment, très beau témoignage, mais pas seulement témoignage, parce que c'est aussi une expérience et un itinéraire spirituel que vous avez franchi, une sorte de seuil en restant 10 ans là-bas. Mais à un moment, vous racontez qu'heureusement, vous avez un perroquet comme compagnon.
Un ménate, oui, un oiseau, un ménate. Oui, j'étais tellement seule que sur le marché, j'ai trouvé un oiseau qui parlait et qui parlait le dialecte sichuanais. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, il était fantastique, il était dans ma petite cellule, il faisait les 100 pas avec les deux ailes dans son dos, puis il se moquait de moi quand je travaillais jusqu'à minuit, 3h du matin. Ni grande sardine, mais qu'est-ce que tu fous, il faisait les 100 pas. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'un jour, le vieux maître Rouen, avec qui je voulais étudier, ce vieux lettré qui n'avait pas été réhabilité après la Révolution culturelle. J'avais déposé des exercices au pied de sa porte parce qu'il avait refusé la première fois de transmettre ses connaissances à une femme, à une étrangère.
Il faut dire qu'on était juste après la Révolution culturelle et que les intellectuels et les calligraphes prenaient beaucoup de risques à essayer de transmettre leur art.
Voilà. Et puis après 6 mois où toute l'école se moquait de moi parce que je déposais mes rouleaux d'exercices et que le vieux lettré ne répondait pas, quelqu'un frappe à la porte un jour et mon ménat dit « Ching ching ben dan », ça veut dire « entre espèce d'abruti ». Et qui rentrait, le vieux maître, pour me dire « écoute, j'ai regardé très attentivement tous ces exercices que tu déposes au pied de ma porte depuis tant de semaines et de mois ». Et je pense que ça vaut la peine de tenter de te transmettre les connaissances des vieux lettrés chinois. Mais je te demande, si je fais ce pas-là, si je prends ce risque-là, il me faudrait 10 ans. Sinon, c'est difficile de t'apprendre à faire ce pas de côté, à penser autrement, à contempler autrement la nature autour de toi, à peindre autrement. Ça va prendre 10 ans. Alors, si tu es d'accord de me suivre pendant 10 ans, alors on y va. Et totalement inconsciente, je suis partie avec lui.
Pourquoi ?
Parce que j'étais tellement seule là, pendant tous ces mois de solitude effroyable. Je ne trouvais pas de sens à ma présence dans ce système très difficile.
Vous auriez pu rentrer en France, mais non, pas question. Tellement le dénuement et une sorte d'ascèse spirituelle vous a conduit à essayer de faire de l'introspection pour trouver la racine vitale de votre art ?
Exactement. J'ai senti que j'étais justement au cœur du sujet pour, si je voulais, devenir peintre et apporter quelque chose à l'expérience picturale, et que c'était une chance inouïe que ce vieux lettré prenne tous ces risques. Et il était tellement beau et tellement une intelligence vive et un détachement extraordinaire. Je sentais que j'avais beaucoup, beaucoup à apprendre de cet être qui était tellement, avec une telle humilité, une telle profondeur en même temps, et une telle vivacité d'esprit, avec un humour délicieux. J'ai tout de suite eu envie de le suivre et d'en savoir plus. Et puis, dès que j'ai commencé à utiliser des pinceaux, et dès que la matière commençait à s'écouler du pinceau, là je sentais que j'étais connectée à quelque chose de fondamental et qu'il fallait plus que je lâche.
Alors vous êtes une créatrice à part entière, vous êtes quelqu'un qui avait révolutionné l'art même de la peinture, qui avait introduit des choses aussi simples que votre propre corps dans la peinture, de ce que ça veut dire faire de la peinture. Et notamment durant cette décennie d'expérimentation de votre propre rapport au monde et de ce que ça veut dire peintre en Chine, vous avez compris que dans le pinceau, il y avait l'encre.
Dans le pinceau, il y avait une réserve de peinture. Et j'ai surtout compris, parce que j'avais été formée par l'école cézannienne, donc la peinture sur chevalet, où l'on prend un pinceau, on construit par touche la forme du monde sensible qu'on veut représenter. Hein. Mais là, tout à coup, on avait affaire à un tout autre acte de peindre, où le pinceau est à la verticale, dans la réserve, il y a la matière picturale, et on exprime la force sensible par une forme d'écoulement, de fluidité. Hein. Et ça, j'ai tout de suite été fascinée par cette autre possible écriture du monde, hein, par le flux, par l'énergie, par un trait d'énergie qui pouvait devenir la matrice de mon travail, cette nouvelle matrice de mon travail, et dans cet influx d'énergie qui vient du corps, qui vient de l'esprit, qui vient du cœur, peut-être dans sa modulation, on pouvait suggérer la poésie du monde.
Mais à ce moment-là, qui peint ? Dans l'acte de peindre, est-ce que c'est le pinceau qui peint ? Est-ce que c'est le corps qui répond à une impulsion ou à une sorte d'énergie vitale ? Ou est-ce que c'est la mémoire ou l'arrière-mémoire qui tout d'un coup vous indique qu'il faut y aller ?
C'est très beau ce que vous venez de dire, parce qu'il y a eu différentes étapes de maturation, de compréhension. Au départ, je pensais, comme tout bon peintre européen, que c'était la main qui peignait. Et puis ensuite, j'ai compris que le corps avait une importance fondamentale que le corps avait à nous enseigner, des mémoires, des choses sur, dans la captation du monde, comment dire, la captation de la mesure des choses, hein, le corps a des enseignements et il faut être à l'écoute de ça. Hein. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que le corps, le pinceau, l'esprit, le cerveau, finalement ne faisaient qu'un. Hein. Et puis aussi, à force de travailler, qu'on nous a toujours enseigné qu'il y a l'homme et le monde. Mais finalement, à force de peindre, j'ai compris que l'homme et le monde ne faisaient qu'un aussi. Donc il y a cette idée de fonte de soi dans le tout qui fait que tout à coup, il y a dans l'entre-deux, puisqu'il y a des jaillissements, hein, comme des géométries naturelles de flux qui circulent, qui surgissent. Hein, et j'essaye d'être à l'écoute de ces surgissements dans l'entre-deux, d'un corps unifié, celui du peintre et du monde.
Alors vous êtes une chercheuse, vous dialoguez beaucoup avec des neurobiologistes, avec des astrophysiciens, vous êtes à la recherche, on pourrait le dire sans mauvais jeu de mots, de l'origine du monde, et en même temps, eh bien, votre art, c'est la peinture. Donc cette peinture, au musée Granet, on peut en voir différents cycles. Le premier qu'on découvre dans cet espace qui vous élève, c'est le premier cycle de peinture que vous avez inauguré quand vous êtes rentrée de Chine. Et là, il y a des traces de l'art de la calligraphie dans votre première vie de peintre. Comment s'est opéré ce retour en France? Étiez-vous déchiré entre les deux continents, les deux cultures? Et avez-vous voulu, dans ce premier cycle de peinture, Fabienne Verdier, retranscrire tout ce que vous aviez vécu spirituellement, artistiquement, sensoriellement de votre expérience du monde dans cette peinture?
Oui, c'est ce que demandait le directeur Bruno Ely. Il voulait, dans cette exposition, à caractère rétrospectif, choisir les pièces qui ont été importantes dans des moments de transformation, de mutation, de changement, d'évolution de peinture. Hein. Et c'est vrai que cette première stèle, on voit d'abord une première stèle qui relate un peu ces 10 années de pratique, donc comme un musicien, j'ai appris mes classiques. Le musicien apprend à interpréter Bach ou Mozart. Moi, j'ai appris à interpréter les grands maîtres calligraphes comme Zhang Xu, Wang Xizi, Wang Xianzhi. Et ça a été, comment dire, l'apprentissage d'une très très longue un processus gymnastique mental. Parce que, par exemple, pendant des années, j'avais des idéogrammes de 17, 14, 24 bâtons qui avaient un sens, une signification poétique, philosophique, l'esprit du vide, par exemple. Et il s'agissait, dans un certain ordre, de le transcrire dans une maîtrise spontanée fluide et de suggérer non seulement la forme mathématique dans l'espace de ce caractère, la forme complexe de ce caractère, mais y ajouter une expérience intérieure, du sens, de comment on avait vécu cet esprit du vide. Et pour les lettrés qui passaient devant ces calligraphies, il ressentait dans cette suggestion poétique et l'expérience vécue, et il reconnaissait la forme alors qu'on est dans une fluidité comme une petite brise de printemps qui est comme dans un surgissement. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, tout à coup, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres formes complexes du monde sensible, comme une branche d'arbre, comme un rocher, deux rochers, trois cailloux, un sentier, une montagne, un paysage, des structures musicales. Et là, j'ai mon esprit qui était comme sur ressort, comme bondissant, avec une grande acuité, forte de cette gymnastique mentale que j'avais pratiquée pendant 10 ans. Et j'ai pris plaisir à commencer à transcrire et à suggérer la poésie de ces formes complexes du monde sensible, de la même manière que les vieux lettrés me l'avaient enseigné. Mais j'ai commencé à m'enfermer à nouveau pendant 10 ans après mon retour.
Et ça a... Vous êtes une cloîtrée, en fait.
Moi, je me définis gravement cloîtrée, c'était dur, ma vie. Mais vous savez qu'on y prend plaisir au bout d'un certain temps, à force de creuser. Et ça a été très dur de faire la synthèse des cultures, très très dur. Vous n'avez pas idée, une grande solitude, parce que je me suis rendu compte en rentrant que je ne voyais plus l'art de la même manière, je ne lisais plus les mêmes choses. Donc j'ai dû revisiter toutes mes premières amours, les maîtres flamands, la peinture italienne, les abstraits américains. Et j'ai eu la chance de passer 2 ans, 3 ans, 5 ans autour des maîtres flamands, et j'ai essayé, en me confrontant, en prenant la prise de risque totale, ce n'est qu'en me reconfrontant que j'ai pu voir comment, au fond de mes tripes, j'allais réagir et inventer ce nouveau langage abstrait que vous pouvez contempler au musée.
Alors, quand vous avez travaillé sur les maîtres flamands, vous n'avez pas... votre travail de peintre n'a pas consisté à reproduire ce que nous pouvons voir dans les musées des maîtres flamands. Mais votre travail a consisté à voir ce que nous, regardeurs, nous ne voyons pas forcément, ou en tout cas ce que nous ne voyons généralement pas du tout. C'est-à-dire que vous avez découvert dans les œuvres maîtresses des maîtres flamands, et notamment chez Von Eyck, des choses qui étaient invisibles de nous et qui le sont toujours. Sauf peut-être après avoir vu votre propre travail de peinture. Est-ce que pour vous, la peinture... Justement, c'est comme ça qu'on a commencé l'émission avec une citation de vous. La peinture, c'est essayer de voir l'invisible, Fabienne Verdier.
Bien, ça peut paraître un peu fou, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la peinture elle-même, mais c'est ce qui se passe entre vous et la peinture. Et c'est ce grand mystère de transmettre une expression vitaliste, des idées, un esprit. Oui, c'est quelque chose d'insaisissable. Il est vrai que quand j'ai commencé, par exemple, à travailler autour de Margareta, l'épouse de Van Eyck, ce fameux portrait de Van Eyck, j'avais accroché Margareta, très très belle reproduction, au-dessus de Molly. Et pendant des jours et des jours, j'essayais de comprendre quel était le mystère de ces maîtres flamands, de ces génies. Et ce sont des génies, parce que Margareta, tous les jours, elle me racontait des choses différentes. Et pourtant, dans une apparente immobilité, vraiment impressionnante, je me disais, mais comment c'est possible ? Et plus je la regardais, plus il me semblait qu'il y avait un rictus. Elle nous racontait ses frustrations de femme de l'époque, elle nous racontait ses aventures. Incroyable ce que Van Eyck a réussi à incarner, ou dans la vibration de la matière de cette toile, tout l'imaginaire qui pouvait en découler de manière infinie. Une touche d'infini, insaisissable dans ce... Alors, c'est vrai qu'ils ont réussi à nous faire sentir que malgré leur immobilité, il y avait quelque chose de vivant dans la sueur de la peau de Margareta, dans le système veineux, on a l'impression qu'elle respire encore. Enfin, il y a un mystère extraordinaire. Je me suis dit, bon, nous, ça c'était les maîtres du 15e siècle, nous aujourd'hui, notre génération, comment j'aurais pu peindre cette Margareta, et j'ai voulu savoir ce que je pouvais apporter dans cette incarnation du mystère de l'âme humaine. Et puis j'ai vu que Van Eyck avait peint dans le chapeau de Margareta comme une pensée labyrinthique, un méandre, une forme archétypale du monde, un grand fleuve. Et je me suis dit que c'était tellement, tellement joli pour parler de l'âme humaine. Et j'ai eu envie de créer ma Margareta avec ce méandre. Et à chaque fois que je trouve des intuitions, des idées, d'essayer de saisir ces insaisissables qui sont cachés derrière le voile de la réalité, je suis obligée de remettre en question toute la manière dont je peignais avant, parce que mes outils n'arrivaient pas à peindre ce méandre. Donc là, il s'est passé une grande transgression dans mon travail. J'ai dû couper le manche du pinceau chinois et j'ai greffé le guidon de mon vélo. Et tout à coup, j'ai découvert une possibilité, une maîtrise dans l'espace que je n'avais pas jusqu'ici. Le corps était bien plus libre. Il y a une vélocité qui apparaissait. Et il y a une force centrifuge, c'est-à-dire que je pouvais tourner les poils du pinceau sur eux-mêmes. Donc le méandre a commencé à pouvoir surgir. Et c'est tout le corps qui traversait l'espace sur l'étoile et qui a pu donner vie à l'âme de Margareta. Et là, j'ai découvert quelque chose de très, très émouvant pour moi, une sorte de troisième dimension dans le trait de peinture.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Fabienne Verdier. Pourquoi ce choix ?
Ainsi la nuit. C'est une expérience que j'ai voulu vivre avec les musiciens. Et ça a commencé en 2014 où j'ai monté le premier. J'étais invitée par les Américains pour monter le premier laboratoire de recherche un peu fondamentale dans la captation, dans le jeu, la captation sonore des musiciens. Et le jeu du peintre dans sa captation picturale de la sonorité, et de voir s'il y avait une concomitance possible, s'il y avait des échanges possibles. Voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler là-bas avec des très très grands musiciens, avec William Christie, avec le grand jazzman, roi de l'improvisation, Kenny Barron. Enfin, et j'étais tellement heureuse de me rapprocher des musiciens parce que je me sentais mal à l'aise avec tout ce milieu de l'art contemporain, cette marchandisation de l'art. J'avais l'impression qu'on était totalement, nous sommes complètement à côté de la plaque par rapport à ce que l'art doit offrir au monde. Et cet échange qu'on doit avoir au travers l'œuvre d'art, d'un échange à plus haut sens, hein, et qui pourrait nous aider tous à créer un lien social et à échanger des choses fascinantes, hein, et à s'émerveiller de tout ça. Mais je l'ai trouvé chez les musiciens, parce que les musiciens sont des êtres avec une grande humilité, hein, et qui sont en totale dévotion pour leur art. Donc j'ai beaucoup appris à leur côté. C'est Paul Valéry qui disait que la musique est comme une suite indéfinie de transformations. Et j'ai trouvé chez le musicien ce que je cherchais moi, c'est-à-dire dans cette fluidité du réel, dans la structure abstraite de la musique. Ils sont eux aussi dans la captation, la recherche d'une gestuelle qui va saisir des mutations, transformations infinies, d'événements fugitifs, en constant devenir. Et j'ai l'impression que là, on est vraiment dans l'essence du vivant et dans la transmission de quelque chose de poétique qui nous dépasse, qui est insaisissable, qui n'a pas de fin, qui est en écho infini. Mais il y a une justesse, il y a une vérité là. Ainsi la nuit, c'est le directeur du festival d'Aix-en-Provence, Bernard Foucroul, qui est venu un jour nous rencontrer à l'atelier et qui nous a dit « Mais j'ai vu les expériences de la Juilliard School, il faut absolument pas abandonner, il faut continuer ces recherches. Venez à Aix, donc c'était en 2017, je vous laisse, nous avons trouvé un lieu pour vous, la chapelle de la Visitation, et vous devriez continuer toutes ces expériences avec les quatuors à cordes, les jeunes quatuors à cordes, les meilleurs de notre génération. » Et il me semble qu'entre les crins de chevaux de vos pinceaux et l'accroche sonore de vos pinceaux et la gestuelle, l'accroche sonore de ces jeunes quatuors à cordes, vous allez vous transmettre des choses. Et nous avons choisi des pièces contemporaines, dont Ainsi la nuit d'Henri Dutilleux. Et j'ai passé des semaines à travailler avec ces jeunes musiciens. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire de pouvoir s'échanger assis au sens des informations sans passer par le langage des mots, et comment ces structures musicales ont pu ouvrir en moi des pans entiers de mémoire. Je ne sais pas d'où elles viennent, ces mémoires, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais elles ont surgi, elles ont fait jour, enfin, des visions intérieures ont émergé. Et j'ai commencé à peindre des nuits et des marches nocturnes avec cette technique des walking painting, dont cette belle toile que vous avez dans la salle Vide Vibration, d'une grande marche nocturne.
Oui, ça vibre chez vous et en vous, Fabienne Verdier. Ça vibre en nous aussi, donc il y a partage. Je ne sais pas comment cette restitution du partage se fait dans votre acte artistique. Ce que je sais, c'est que vous prenez des risques, vous réinventez votre rapport à la matière, à la couleur, aux instruments, ou à la technique, etc. Vous avez abandonné le pinceau pour avoir finalement réussi à inventer une espèce de grande griffe mécanique à l'intérieur de laquelle s'écoule de la peinture. Et vous faites, non pas comme Jackson Pollock, vous laissez pas la peinture couler, mais vous mettez vos tableaux au sol pour pouvoir dessiner et peindre des structures qui vont peut-être être le fruit du hasard ou peut-être de la nécessité, je ne sais pas. Mais en même temps, vous voyagez, c'est-à-dire que Les voyages, pour vous, sont une tentative de vous immerger dans du sensible, c'est ça ?
Vous savez, quand on a goûté à cette intensité d'existence, eh bien, on a mis le doigt dans le pot de miel et on a besoin de dévorer un pot de miel toutes les semaines. Et donc, je ne peux plus vivre sans peindre. C'est quelque chose qui est tellement, tellement à apprendre et c'est un chantier...
C'est naturel.
Ça devient naturel et je vois que en notre corps humain, nous avons des milliards de mondes en transformation. Et d'être à l'écoute de ces champs du possible, d'être à l'écoute, essayer de les transcrire, essayer de les peindre, une vie ne me suffira pas, ça c'est sûr. Je suis arrivée à un point où je m'étais démise l'épaule, donc j'avais eu un accident avec mes gros pinceaux, je travaillais un petit peu trop, mais je voulais continuer à peindre, et j'ai inventé ce nouvel outil qui est comme une douille de pâtissier où je mets ma matière picturale avec une certaine viscosité, une certaine alchimie, et je me suis rendu compte qu'en me déplaçant dans l'espace et en modulant cette douille, il y avait un écoulement de matière dans des marches peintes, le corps qui se déplace dans l'espace finalement crée de lui-même des paysages. Et quand la matière tombe, elle tombe attirée par l'attraction terrestre, elle tombe en cercle et le cercle éclate et crée comme des arborescences fugitives. Et j'ai découvert une nouvelle forme d'énergie, très très impressionnante, bien différente de celle de l'énergie du pinceau, de l'écoulement du pinceau. Mais je suis fascinée par cette nouvelle écriture parce qu'il me semble qu'elle est une belle métaphore des forces à l'œuvre qu'on trouve souvent dans les arcs de tension, des éclairs dans le ciel, des arborescences l'hiver quand il n'y a plus de feuillage. On reconnaît inconsciemment les forces à l'œuvre de ces formes du monde.
Alors vous êtes une observatrice du monde, justement, le monde sous toutes ses formes. On va parler de votre expérience avec Paul Cézanne et la montagne Sainte-Victoire, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi des paysages d'eau, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'incroyable, vous essayez d'arrêter l'écoulement du temps, vous essayez d'arrêter l'écoulement du fleuve, vous essayez d'emprisonner votre vision du monde pour mieux nous l'offrir. Qu'avez-vous été faire dans des fjords et pourquoi avez-vous été dans un bateau sans fond pour pouvoir voir ce qui s'y passait, Fabienne Verdier ?
Je ne sais pas si je peux dire que j'essaye d'arrêter l'écoulement, parce que justement j'ai l'impression que le fait d'oser rentrer dans le chaos d'un ressac de l'eau, par exemple, de se laisser porter dans les mouvements du vivant qui sont les mouvements des ondes, des ressacs de l'eau, des marées. Et si justement mon corps et mon esprit se balancent et cherchent ce rythme qui est quand même le rythme essentiel de cette petite planète, hein, d'être à l'écoute de ce... Et encore une fois, on touche à la musique, là. Si je me laisse porter comme une algue au fond de l'eau par ces mouvements-là, eh bien, le pinceau a des choses à m'enseigner.
C'est vous ou c'est la force de la nature ? Est-ce que c'est vous qui, en tant que peintre, pouvez donner, partager, nous faire partager ? Ou est-ce que c'est vous qui, par une sorte de descente à l'intérieur de vous-même, vous êtes d'une certaine façon instrument de quelque chose qui vous dépasse, vous.
J'ai l'impression que ce n'est plus moi toute seule. C'est quand vous arrivez à vous centrer, que vous arrivez dans un grand dépouillement, une grande réceptivité. Il se passe des coïncidences et des moments, et c'est ce qui m'est arrivé dans la montagne sur les terres de Cézanne. Et il y a des moments où tout à coup, il y a une rencontre possible entre votre énergie intérieure, l'énergie de votre corps, l'énergie de votre esprit et l'énergie du monde. Et dans l'entre-deux, il y a un dialogue possible. Et à ce moment-là, on touche à une forme d'harmonie qui, il me semble, se voit dans la peinture, mais effectivement, on touche à ces géométries naturelles. On n'est plus dans une représentation du monde par la perspective euclidienne, on est dans une représentation du monde par ces souffles, par cette énergie sous-jacente qui fait être les formes du monde sensible.
Alors, en même temps, vous êtes une spirituelle, votre technique de peinture permet une sorte d'élévation spirituelle et j'imagine nécessite une technique méditative d'abandon de toutes les vanités du monde pour pouvoir commencer à initier le travail. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un de très physique, de très sportive. Pour essayer d'aller sur les traces de Paul Cézanne, encore une fois comme sur les traces des peintres flamands du XVe siècle, vous n'allez pas faire du Paul Cézanne, mais vous allez avec des ânes faire avec votre atelier nomade, Fabienne Verdier, l'expérience de ce que fit Paul Cézanne, c'est-à-dire la peinture au chevalet calée avec un petit caillou pour pas que ça bouge trop, mais vous allez partir avec vos ânes, mais avec un autre type d'appareillage.
Oui, je suis partie et j'ai monté ça avec mon mari et mon fils. On a décidé, sur l'invitation de Bruno Ely, et ça je lui en suis profondément reconnaissante, il a eu cette idée incroyable en disant « Écoutez, ça fait presque 40 ans que vous travaillez dans une solitude effroyable, dans la fosse de votre atelier, en introspection. Vous avez trouvé une forme de peinture abstraite, mais ça serait intéressant si j'aimerais tellement ancrer cette exposition dans le territoire et intéresser les gens du territoire à ce que vous faites. Ça serait intéressant que vous sortiez de l'atelier et que vous retourniez sur le motif et voir ce qui se passe. Pourquoi pas ? Essayons cette sortie de solitude. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que cette aventure devenait une aventure humaine. Que les gens du pays, ces amis de Sainte-Victoire, une trentaine de gars de 70 à 85 ans, qui étaient les avocats et les grands de la ville d'Aix, dans leur temps de retraite, étaient les gardiens de la montagne et ont restauré le prieuré là-haut de Sainte-Victoire de manière magnifique. Ils ont été tellement touchés par le fait que je vienne avec mon atelier nomade et mon pinceau suspendu au milieu des tempêtes des éléments, parce qu'il a fait un temps pourri pendant les semaines où j'étais venue, comme si, je ne sais pas, les divinités me jouaient des tours incroyables. On a eu la grêle, la pluie, l'orage, on était dans la gadoue, on n'arrivait pas à avancer. Il n'y a pas de chemin, on faisait tout à pied en trimballant 350 kilos de matériel. Mais moi, ça a été très, très, très difficile, vous avez raison, de relever ce défi-là. Parce que finalement, dans la fosse de mon atelier, dans ma solitude, j'avais mis en place des mécanismes, des gestuels, des rituels pour laisser advenir cette peinture que je cherchais. Je m'étais organisé des formes dans mon esprit. Et peut-être une vision trop minimale, trop esthétisante encore. Parce que quand je suis arrivée et que j'ai pu mettre toute cette expérience-là en immersion dans la nature, j'ai compris là comment les peintres qui ont fait ça autrefois, à quel point c'était difficile. Parce que votre cerveau, tout à coup, est totalement anéanti presque par les myriades d'informations qui arrivent de toutes parts et que vous n'arrivez plus à gérer, que vous n'arrivez plus à digérer et vous n'arrivez plus à faire le travail de maturation de tout ça pour trouver l'idéal de forme que vous cherchez. Et on peut devenir fou, on peut avoir une surchauffe de tous les sens et du cerveau, on peut péter un câble. Et c'est ce qui m'est arrivé les premières semaines. Et puis, tout à coup, la belle histoire qu'il faut que je raconte là, et en plus, il y avait le poids de l'histoire de Cézanne qui a donné sa vie à la contemplation de cette montagne et comment, à la fin de sa vie, il était parti d'une figuration classique et à la fin de sa vie, il avait compris, et il a beaucoup souffert parce qu'il était incompris de son vivant, qu'on n'avait plus besoin de peindre la totalité du paysage pour dire... la présence spirituelle et vibratoire de cette montagne, mais que finalement, avant même les recherches scientifiques, il avait compris que ce voile de réalité, c'était des atomes en mouvement, et ces dernières aquarelles étaient juste quelques petites touches, et tous les gens arrivaient à sentir cette présence. Donc, Ce qui est intéressant, c'est quand d'autres peintres, ce qui est fascinant dans notre culture, c'est justement que chaque peintre arrive avec son regard, son expérience intérieure et découvre l'énigme du réel par un autre biais. Et moi, je me suis intéressée à la géomorphologie. Je me suis dit, un jour, j'étais sur les plateaux de Bibémus, on avait installé l'atelier nomade au bord du vide, on regardait la montagne, et ce jour-là, il y avait un vent de 86 km/h, la grêle avec des gros calots comme ça, c'était très dur. Mon mari était très inquiet, et il me dit, mais tu vas t'envoler, arrête, c'est la folie. Moi, j'étais dans un état pas possible en me disant, mais écoute, je suis venu ici pour comprendre quelque chose, je ne repartirai pas, et j'étais sous la pluie, le vent, les orages. Et je dis à mes deux assistants, mais peut-être qu'il faudrait que je rencontre un géomorphologue. Ils se moquaient de moi en disant, mais Fabienne, mais est-ce que ça existe au moins un géomorphologue? J'ai même douté tellement, j'étais dans une crise nerveuse d'hypersensibilité, n'arrivant pas à trouver de solution devant cette énigme que j'avais devant moi, cette cathédrale de montagne qui changeait, qui était multiforme du matin au soir, selon la lumière qui s'accrochait sur les différentes facettes. Et tout à coup, je me dis, mais je vais quand même tenter d'essayer de saisir les tectoniques, les telluriques, en essayant de suggérer ces forces à l'œuvre qui ont fait être cette forme durant des millions d'années. Hein. Et tout à coup, en essayant de saisir la matière avec mon pinceau, mon guidon de vélo, je vois que ce vent de 86 km/h commence à faire frissonner la matière fraîche qui s'écoule du pinceau. Et je rencontre là une nouvelle force que je ne connaissais pas dans le huis clos de l'atelier. Et là, tout à coup, sous la pluie, la grêle, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi je peste depuis des semaines contre les éléments de la nature ? Il s'agit peut-être de les accueillir et de commencer à jouer avec lui. Et j'ai commencé à jouer avec le vent. Et j'ai vu que, à peine mon coup de pinceau, du flux de matière, de l'énergie de matière, était installé sur ma toile, déjà il commençait à creuser des fractales et creuser des rivières et des sources vives de cette carapace de la montagne. C'était un choc d'éveil pour moi extraordinaire de voir que, décidément, on n'avait rien compris qu'il fallait aller à l'encontre de toutes ces forces à l'œuvre autour de nous et qu'on était depuis bien trop d'années déconnectés de cette puissance de la réalité. Et là, la pluie, la grêle a commencé à tomber sur la matière de l'esprit de la montagne que j'avais tenté de suggérer avec mon pinceau et il a créé comme des stigmates. Hein. Et j'ai laissé sécher ça pendant un temps et je laissais la nature avec le sable de la vallée d'Arc continuer. Dans un abandon, j'acceptais de travailler avec les forces vives qui m'entouraient. Et tout à coup, j'étais épuisée, je devais être à 7 de tension tellement c'était une bataille effroyable. Je prends un petit pastis, un petit bout de saucisson pour me remettre de ces émotions. Et quelle ne fut pas ma surprise quand tout à coup dans la montagne, je vois deux vieux messieurs qui arrivent, dont un avec une canne, qui font le détour sur le bord du précipice du plateau de Bibémus où j'étais, qui s'arrêtent devant le tableau au sol qui était en train de se concrétiser, de sécher avec le vent. Et le monsieur se baisse et commence à me raconter l'histoire géologique de la montagne. Je lui dis, monsieur, qui êtes-vous? Et son ami dit, mais comment... Vous ne connaissez pas ce grand monsieur? C'est un très grand professeur géomorphologue. C'est quand même joli comme histoire. Et ce monsieur m'a tellement encouragée qu'ensuite, pendant des semaines, j'ai continué avec mon atelier nomade à travailler avec les forces vives de la nature.
Ben, merci infiniment Fabienne Verdier. Cette exposition magnifique, magistrale, elle dure jusqu'au mois d'octobre. Donc vous avez compris, il ne faut surtout pas la manquer.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil, maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours le chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil, maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
C'est avec Trop beau de L'homme pâle que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Gilles Gaillard qui, comme chaque soir, est à la technique pour l'émission. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à l'équipe Élodie Royer, Anne-Sophie Lazare, Adrien Nazelli et Louise Douillet. Et merci à Lilian Alaume qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'info, c'est avec Mishka Assayas pour la suite de son Very Good Trip que vous avez rendez-vous.